Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, la tension entre États-Unis et Iran va-t-elle provoquer un embrasement au Proche-Orient? Des frappes américaines suspendues au dernier moment la nuit dernière selon le New York Times. Nous ne cherchons pas la guerre, mais si besoin, nous nous défendrons, réplique l'Iran. Donald Trump veut-il vraiment entrer en conflit ouvert avec l'Iran? Pour quelles raisons? Qui l'influence dans cette crise à Washington? Notre invité est le spécialiste des États-Unis, Thomas Negaroff, et les dernières nouvelles dans la région avec Aurélien Colli. L'actualité politique, ce sera avec vous, Maxence Lambrecq. Bonjour.
Bonjour.
Alors que les débats de société sur la PMA ou le cannabis promettent d'être vifs dans les mois à venir, le Rassemblement national à l'extrême droite prend position.
Oui, et ils y vont au bazooka, opposition claire et virulente sur toutes ces questions pour accentuer encore un peu le malaise à droite qui cherche sa ligne.
A tout à l'heure pour les détails. Nicolas Sarkozy, lui, participait ce matin au colloque sur Georges Pompidou. Il disserte sur la violence en politique et même à l'intérieur des familles politiques.
Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié.
Et voilà, propos recueillis par Laurent Sénéchal, on l'entendra plus longuement tout à l'heure. Quand des députés prennent le pouls des forces de l'ordre, la commission d'enquête sur les forces de l'ordre lancée en pleine crise des Gilets jaunes envoie un questionnaire aux 250 000 policiers et gendarmes. C'est inédit, pas sûr que le ministère de l'Intérieur apprécie la démarche. À propos de gendarmes, le conducteur qui avait renversé 4 Gilets jaunes à Rouen il y a quelques semaines était lui-même un gendarme. Nous vous raconterons. Dans ce journal encore, j'ai testé notre rendez-vous du vendredi dans le 13h. Aujourd'hui, j'ai testé le bac. Nous avons rappelé Michel Barda, le doyen du bac cette année, 77 ans, pour qu'il nous raconte sa semaine. Le sport, Florent Manodou, satisfait de son retour à la compétition à Rome. Et puis la météo, bonjour Jean-Michel Golinski.
Bonjour Bruno.
Des orages entre Aquitaine et Alpes.
Exactement, avec 5 départements en vigilance orange, la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et les Deux-Savoie, avec sur ces départements des orages forts, parfois de grêle, débutant en début d'après-midi sur la Drôme et l'Ardèche et quittant la France par les Savoies en fin de journée.
Et bientôt la canicule, Jean-Michel ?
Ah oui, les températures vont commencer à atteindre les 30 degrés dimanche dans la moitié nord, 34 dans le sud-ouest, chaleur qui va devenir caniculaire en cours de semaine, avec des journées généralement entre 32 et 36 degrés jusqu'à mercredi, 34 à 38 jeudi et vendredi, même 40 degrés en Rhône-Alpes. Notez que l'air restera tout de même plus respirable près de la Manche et de l'océan.
On prépare les glacières. Coup de chaud en France et secousse ce matin dans l'ouest. Un séisme de 4,9 à Bressuire dans le Poitou, ressenti jusqu'à La Rochelle, à Tours, à Angers et à Nantes. En ce jour de fête de la musique, enfin tout à l'heure, un petit cadeau à la fin du journal. Les pires reprises de quelques standards anglo-saxons. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Les avions étaient dans le ciel, les navires étaient en position, ils n'avaient plus qu'à tirer. Au dernier moment, il y a eu contre-ordre. Tout cela selon le New York Times. Nous sommes passés la nuit dernière à un souffle de frappes américaines sur l'Iran. Autant dire un acte de guerre dans un Moyen-Orient inflammable, comme toujours et comme jamais. À l'origine de ce nouvel épisode, ce drone américain abattu hier par l'Iran dans son espace aérien, dit Téhéran, dans l'espace international, répond Washington. En représailles, donc, les avions américains auraient décollé, les navires se seraient mis en position, puis Trump aurait fait marche arrière. On en parle dans un instant avec l'invité du journal de 13h. Bonjour Thomas Negaroff.
Bonjour.
Journaliste, historien, spécialiste des États-Unis. D'abord Thomas, les dernières nouvelles de ce qu'il faut bien appeler le front avec notre correspondant au Moyen-Orient. Bonjour Aurélien Colli.
Bonjour.
Et quelle réponse de l'Iran ce matin aux informations notamment du New York Times ?
L'Iran défendra résolument son territoire contre toute agression. Réponse sans embâche, tout comme d'ailleurs les communiqués ou déclarations sur l'intrusion du drone américain dans son espace aérien. Prévenu par l'administration américaine de frappes imminentes via le sultanat d'Oman, les Iraniens ont contacté en urgence la nuit dernière l'ambassade de Suisse qui représente les intérêts de Washington dans leur pays pour dénoncer une fois de plus la violation de leurs frontières aériennes par ce drone en assurant en avoir des preuves irréfutables, notamment des débris repêchés dans leurs eaux territoriales, des coordonnées GPS de l'endroit où il a été abattu, son itinéraire détaillé aussi, décollage des Émirats Arabes Unis, passage du détroit d'Ormuz et large boucle pénétrant l'espace aérien iranien. Un drone qui avait aussi coupé tous ses systèmes d'identification selon Téhéran, contrevenant aux règles de l'aviation internationale. Téhéran qui dit aussi ce matin avoir prévenu 2 fois avant d'abattre le drone américain.
On vous retrouve dans quelques minutes, Aurélien Colli, pour voir les conséquences dans la région. On parle de politique de pression maximale américaine sur l'Iran, Thomas Negaroff. On est dans quoi ? Dans du poker menteur ? On va vers une guerre ? Comment interpréter ces derniers événements ?
C'est très compliqué et ça tient, à mon avis, à la manière de gouverner Donald Trump. C'est-à-dire que cette nuit, on peut tout entendre et tout comprendre ou tout croire comprendre de ce qui s'est passé. D'un côté, on peut se dire, il a changé d'avis dans la nuit parce qu'il est, tout comme toujours, pris entre deux eaux. D'un côté, les faucons, et ils sont nombreux autour de lui, peut-être on en dira un mot.
Oui, bien sûr.
Et des gens, notamment au Pentagone, qui lui dit, attention, vous l'avez dit, la région est inflammable, c'est dangereux. Oui. Ça serait une première manière de voir les choses. On peut aussi dire, c'est du Trump tout craché. Non pas un Trump pris entre deux eaux, mais un Trump qui souffle lui-même le chaud et le froid, comme il l'a fait avec la Corée du Nord. Souvenez-vous qu'il voulait détruire le pays, qui était possible, avec les embargos dans le domaine commercial. Et donc, qui menace l'attaque, qui menace d'attaquer, qui sait pertinemment qu'il ne le fera pas, qui fait savoir, parce que si la presse ce matin, et tous les grands journaux américains pensent avoir le scoop de cette volte-face de la nuit, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ont eu intérêt à faire sortir cela. Est-ce que les gens qui ont intérêt à faire sortir cela sont des gens plutôt autour de Trump pour montrer que Trump est capable d'agir, mais qu'il attend pour cela le moment et donc qu'il pousse à la négociation? Ou au contraire, est-ce que c'est des faucons qui font sortir l'information pour pousser Trump à agir? Parce qu'on sait bien aussi, la psychologie du personnage, qu'il déteste qu'on mette en avant ses faiblesses. Et c'est une forme de faiblesse aussi, ça peut être en tout cas une analyse, que de changer d'avis dans la nuit.
Tout cela au moment où, quelques jours après son entrée officielle en campagne, oui, il aurait intérêt à un conflit avec l'Iran ou pas?
C'est une question extrêmement difficile. Il avait lui-même théorisé la chose sous Barack Obama. Dans l'un de ses tweets, il avait dit « Je ne serais pas étonné que le président Obama, pour un second mandat, lance une guerre ». Et il sait très bien, même s'il ne connaît pas bien l'histoire de son pays, que les conflits servent le pouvoir en place. Après, la grande question, c'est est-ce que l'Amérique, qui avait élu Obama sur la question de la fatigue de la guerre, qui n'en pouvait plus de ses conflits, est-elle prête aujourd'hui à cela?
Oui.
Voilà, l'opinion.
Oui.
En tout cas, ce qui est clair, et là, je crois que c'est pas de l'analyse de comptoir, on le voit bien, ça fait des semaines que l'opinion publique américaine est travaillée par l'administration américaine à l'hypothèse d'une guerre. Il y a quelque temps, le 31 mai, il y a un convoi américain qui se fait attaquer à Kaboul. Mike Pompeo cible immédiatement l'Iran, là où les talibans. On dit que c'était eux qui avaient fait la chose. On a d'autres exemples de ce type-là. On envoie des journalistes pour aller voir sur le tanker japonais qu'il y a bien la preuve absolue que ce sont des Iraniens et pas quelqu'un d'autre qui est responsable de cela. On a Newt Gingrich, qui est une des grandes figures du Parti républicain, qui hier dit, ou avant-hier, qui dit « les Iraniens préparent des attentats, y compris aux États-Unis ». Tout cela fait partie d'un mouvement de fond très clair, je crois, qui n'a jamais cessé en réalité depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump.
Dans l'entourage, on le pousse plus à la guerre ou on le retient davantage? Vous avez cité Pompeo, le secrétaire d'État. Qui est là pour le pousser, qui est là pour le retenir?
Alors autour de lui, il y a vraiment une galaxie. Il y a Lindsey Graham, grande figure du Parti républicain qui pousse à la guerre. Marco Rubio qui pousse à la guerre. Tom Cotton qui pousse à la guerre, qui est le sénateur de l'Arkansas. La nouvelle patronne de la CIA. Gina Haspel, qui pousse aussi à la guerre. Il y a Bolton, qui est le grand théoricien du changement de régime. Mike Pompeo. Tous ces gens-là sont plutôt favorables à la guerre. Mais comme dans 90% des cas, les gens qui ne veulent pas la guerre sont ceux qui savent ce qu'est la guerre. Et les gens qui savent ce qu'est la guerre, c'est le Pentagone. Et aujourd'hui, le Pentagone dit « Attention, on a des dizaines de milliers d'hommes dans la région, on a des alliés, l'Iran n'est pas isolé. » Vous savez, l'Iran, on a beaucoup en tête l'Irak 2003. L'Iran, c'est pas l'Irak 2003. D'abord, pour une raison première très simple, c'est qu'on a eu l'Irak 2003, donc on sait les preuves, les armes.
On sait ce que ça donne derrière.
Voilà, et on sait surtout
les mensonges dont sont capables les Américains.
Les mensonges et les conséquences d'une guerre contre-productive. Et puis surtout, l'Irak, contrairement à l'Iran d'aujourd'hui, était très isolé. Aujourd'hui, l'Iran est un pays qui n'est pas aussi isolé que l'Irak à l'époque. Donc on a un contexte différent. C'est pour ça que ça va être difficile de refaire le coup de l'Irak aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que les faucons ont des arguments très forts, qui sont peut-être pas absolument idiots. Il y a des menaces iraniennes, mais d'un autre côté, l'autre camp, le camp de ceux qui veulent restreindre et retenir le président américain, ont des arguments aussi très entendables.
Merci beaucoup Thomas Negaroff, vous me fournissez la transition idéale avec Aurélien Colli qu'on retrouve à Beyrouth. Aurélien, sur ce contexte régional, au fond dans chaque camp, les faucons poussent à l'affrontement, il y a un déséquilibre évident des forces en faveur des Américains, mais les Iraniens se sont préparés à une guerre asymétrique.
Oui, face à l'hyperpuissance américaine, les Iraniens savent très bien qu'ils ne font pas le poids. Ils se sont préparés. D'abord, ils connaissent par cœur les eaux du Golfe Persique, la spécificité du détroit d'Ormuz, étroit, peu profond. Ils y concentreront donc leurs attaques, alors que 30% du commerce mondial du pétrole passe par là. Leur stratégie asymétrique prévoit, par exemple, la pose de mines, le sabotage de tankers, le harcèlement aussi des navires américains par des vedettes rapides armées notamment de lance-roquettes ou de missiles à courte portée. L'autre carte iranienne est régionale, via des milices inféodées au Liban, c'est le Hezbollah qui peut ouvrir un front avec Israël. En Irak, des milices qui viseront les intérêts américains. En Arabie Saoudite, sur la côte Est, majoritairement chiite, de potentiels attentats contre les installations pétrolières. À Bahreïn aussi, le siège de la 5e flotte américaine, population majoritairement chiite et possibilité de déstabilisation. Et puis il y a les Émirats Arabes Unis aussi, juste en face de l'Iran, Dubaï, Abu Dhabi, à portée de missiles. Il en suffirait d'une dizaine seulement pour que les étrangers fuient. Les étrangers sont indispensables à l'économie de ces Émirats. Sans oublier le Yémen, où les rebelles Houthis harcèlent déjà l'Arabie Saoudite au sud, les Houthis soutenus par Téhéran. En résumé, quand vous regardez la carte du Moyen-Orient, aucun doute, les Américains sont plus forts militairement, mais la capacité iranienne d'embraser toute la région a réellement de quoi faire réfléchir.
Merci Aurélien Colli en direct de Beyrouth et merci donc à Thomas Negarov. Ce dossier sur la crise entre États-Unis et Iran, on y reviendra bien sûr dans nos éditions ce soir et vous trouvez les informations ou la réécoute des chroniques, notamment celle de Pierre Aski, sur franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La solution à la crise de la droite est-elle dans le pompidolisme? Depuis hier, à l'occasion des 50 ans de l'entrée de Georges Pompidou à l'Élysée, un colloque se tient au Centre Pompidou, sur l'héritage de l'homme qui a succédé au général de Gaulle. Deux ex-présidents y participent, hier Valéry Giscard d'Estaing, aujourd'hui Nicolas Sarkozy, prise de parole dans un contexte particulier. Son parti, les Républicains, se cherche un chef, une ligne et un candidat à la prochaine présidentielle. Et Nicolas Sarkozy, dans ce contexte, disserte sur la violence en politique.
Et c'est un grand sujet de réflexion pour moi, la violence en politique et la violence interne aux mêmes familles. Car contrairement à ce qu'on dit, les bagarres entre familles différentes sont infiniment moins cruelles et sauvages que les bagarres à l'intérieur d'une même famille. Naturellement, tout rapport ou toute allusion serait parfaitement justifié.
Voilà, propos recueillis ce matin au Centre Pompidou par Laurent Sénéchal, Nicolas Sarkozy, qui s'apprête à publier ses mémoires selon nos confrères de France 2. Ce serait même publié la semaine prochaine. La droite se cherche une ligne entre un discours conciliant ou radical. Où placer le curseur? Un discours trop radical et les électeurs modérés risquent de voter En Marche. Un discours trop conciliant et les électeurs les plus à droite risquent d'aller voir chez Marine Le Pen. Cela vaut notamment sur les questions de société, la PMA, la légalisation ou pas du cannabis. Pour mettre un peu plus la droite face à ces interrogations, le Rassemblement National clarifie sa position et adopte une ligne dure dans ses dossiers, Maxence Lambrecq.
Oui, une ligne extrêmement claire énoncée hier par Marine Le Pen sur BFM. Elle reprend en fait le discours de sa nièce Marion Maréchal au sujet de la PMA.
On ne peut pas mentir légalement à un enfant en organisant en quelque sorte, dès sa conception, un mensonge qui est un mensonge dont je suis convaincue qu'il le fera souffrir. On ne peut pas dire à un enfant « tu es né de deux femmes ».
Et ces phrases ont été très appréciées en interne, relayées par des milliers de militants. Marine Le Pen a reçu aussi de très nombreux mails de félicitations car elle a rarement été aussi claire. Pourquoi? Pour accentuer la crise à droite, une droite divisée sur ce sujet. Écoutez par exemple sur Public Sénat, Damien Abad, vice-président des LR.
Je suis pour qu'on ouvre le débat, qu'on ait une réflexion, comme on l'a eu avec les lois Leonetti sur la fin de vie. Il ne faut pas que la droite soit toujours en défensive sur les questions de société.
Et ce sera la grande ligne de fracture à venir à droite. Et le patron du parti par intérim, Jean Leonetti, le confirme en rappelant ce matin la liberté de vote des députés LR sur cette question. Sur la légalisation du cannabis, c'est la même chose. Le RN tire à boulet rouge et la droite semble hésiter. Valérie Boyer.
Si on légalise le cannabis, si on le dépénalise, est-ce que c'est une avancée pour la santé publique ou pour la sécurité publique? J'aimerais bien qu'on me le prouve, donc je lirai avec attention ce texte.
Voilà, elle parle de la future proposition de loi, mais on a connu une droite plus virulente, plus audible. Le RN en profite, objectif incarné en 2022, la seule alternance crédible.
C'est un des accidents qui ont émaillé la mobilisation des gilets jaunes sur les ronds-points et dans les centres-villes. À Rouen, en février, un homme bloqué par un cortège de gilets jaunes avait forcé le passage et renversé quatre personnes. Garde à vue, enquête. 4 mois plus tard, c'est une information de nos confrères de France Bleu Normandie. On apprend que le chauffard en question était un gendarme mobile. Coralie Moreau.
C'est un homme de 29 ans qui fait partie de l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-Saint-Aignan à côté de Rouen. Ce samedi 16 février, il est en permission et c'est au volant de sa voiture personnelle donc qu'il se retrouve bloqué dans la manifestation des Gilets jaunes. Selon la direction de la gendarmerie, la voiture reçoit quelques cailloux. Le gendarme, qui est accompagné de sa femme et de son bébé, prend peur et force le passage, renversant plusieurs manifestants. Peu après les faits, le gendarme mobile, qui ne s'est pas arrêté, se rend lui-même à la police. Il est placé en garde à vue et reconnaît les faits. Depuis, plus rien, 4 mois que l'enquête dure. Pourtant, selon nos informations, la police a rapidement transmis le dossier au parquet, qui l'a renvoyé pour complément d'enquête. Une procédure qui traîne un peu trop pour maître Chloé Chalot, avocate d'une des victimes qui a porté plainte et souffre encore aujourd'hui de séquelles de l'accident. Hier soir, le procureur de la République de Rouen indiquait que l'enquête était en voie d'achèvement.
Et le même mois que cet accident, alors que les samedis de manifestation de Gilets jaunes, l'usage de lanceurs de balles de défense suscitait la controverse, une commission d'enquête parlementaire était créée sur les moyens des forces de police. Cette commission sort-elle de son rôle? En tout cas, elle s'intéresse aussi au moral des forces de l'ordre. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour.
C'est inédit, les députés envoient un questionnaire sur ce thème aux 250 000 policiers et gendarmes.
Oui, 37 questions sont posées aux policiers et gendarmes, parmi lesquelles la formation initiale vous paraît-elle adéquate? Pensez-vous qu'une formation aux techniques de maintien de l'ordre serait nécessaire pour tous les membres des forces de l'ordre? Avez-vous pu remplir les obligations réglementaires d'entraînement au tir? Quelle est la part de votre équipement individuel que vous avez dû acheter vous-même? Dans quel état est votre commissariat, votre caserne? Autant de questions, vous l'entendez, très direct et sans tabou, que salue Christophe Rouget, secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Son syndicat a commencé à diffuser ce questionnaire à la demande des députés.
Nous invitons du coup tous les policiers à faire largement entendre leur voix auprès des parlementaires, parce que ce ministère, il est touché par une vague de suicides, malheureusement, cette année sans précédent, et gangréné par une technostructure conservatrice. Donc je crois que l'intérêt, c'est nos collègues directement qui vont pouvoir dire tout ce qu'ils subissent comme dysfonctionnement et le faire directement remonter aux parlementaires. Il reste à espérer ensuite que les conclusions de cette commission ne restent pas lettre morte, parce que c'est malheureusement le cas dans notre pays. On a des questionnaires, on a des informations qui remontent, mais il n'y a pas de décisions qui sont prises.
Alors les députés ne donnent qu'une semaine aux policiers et gendarmes pour répondre jusqu'au 28 juin et l'anonymat est normalement garanti.
En Grande-Bretagne, qui pour succéder à Theresa May, ils ne sont plus que 2 en course après la série de votes des parlementaires du Parti conservateur, l'ancien ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et l'actuel Jeremy Hunt. Dans ce résultat, Éric Albert, il y a à la fois une confirmation et une curiosité. La confirmation, c'est l'avance de Boris Johnson, 160 voix sur 313. Jeremy Hunt en a 77. La curiosité, Éric, c'est que l'adversaire jugé au départ le plus sérieux de Boris Johnson, Michael Gove, obtient un résultat nettement moins bon qu'escompté.
Boris Johnson se retrouve aujourd'hui dans la meilleure situation possible pour devenir Premier ministre. Non seulement il a remporté hier la moitié des voix des députés, terminant très largement en tête, mais en plus, il se retrouve face à Jeremy Hunt. Jeremy Hunt, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères, qui est un ancien pro-européen qui a battu de seulement 2 voix hier Michael Gove. Michael Gove, lui, c'était l'ennemi juré de Boris Johnson. C'est un débatteur très redoutable et surtout, c'est un partisan historique du Brexit. Pendant un mois, Boris Johnson va donc se retrouver face à un candidat qui est poli, qui est tout en retenue et surtout à qui il pourra rappeler à chaque fois que autrefois c'était un pro-européen convaincu. Du coup, la qualification de justesse de Jeremy Hunt face à Michael Gove soulève d'intrigantes questions. La presse britannique se demande si Boris Johnson n'aurait pas demandé à quelques-uns de ses propres soutiens de discrètement aller voter pour Jeremy Hunt afin d'éliminer son opposant Michael Gove. La spéculation est impossible à prouver à l'heure actuelle, mais ce ne serait pas complètement inimaginable, étant donné l'amateur de coups tordus qu'est Boris Johnson. À Londres, Éric Albert pour France Inter.
Boris Johnson ou Jeremy Hunt, ce sont maintenant les adhérents du Parti conservateur qui votent. Résultat attendu dans un peu plus d'un mois, fin juillet. Et puis à l'instant, au sommet de Bruxelles, cette déclaration de l'Union européenne au prochain Premier ministre britannique, quel qu'il soit, l'accord sur le Brexit n'est pas renégociable. J'ai testé pour vous chaque vendredi dans ce journal de 13h. Format un peu particulier cette semaine. Si vous étiez à l'écoute lundi, vous avez entendu Michel Barda, le doyen de ce baccalauréat 2019. Il a 77 ans. Il avait raté son bac, cela arrive, il y a 56 ans. Une vie d'homme d'affaires a suivi. Il a notamment participé à l'aventure du Minitel, beaucoup de voyages. La retraite arrivée, il s'est mis à écrire des pièces de théâtre et des nouvelles. Et maintenant, ce nouveau défi, candidat au bac L, option art, anglais et italien en langue vivante. C'est dans un lycée d'Auxerre qu'il passe l'épreuve. J'ai testé le bac. Nous avons demandé en fin de matinée à Michel Barda de nous raconter sa semaine et d'abord la philo.
La philo s'est bien passé, je l'attendais d'ailleurs comme ça, mais ça s'est super bien passé puisque c'est un sujet sur l'explication de l'art et ça me chatouille beaucoup, donc je me suis éclaté. Voilà.
Décrivez-nous la salle dans laquelle vous avez passé toutes ces épreuves. Toujours la même salle, toujours la même place ?
Oui, la même salle où nous sommes une trentaine. La plus jeune a juste 60 ans de moins que moi, c'est amusant. Et sinon, les autres, ce sont majoritairement des jeunes filles, mais je ne les vois pas puisqu'elles sont derrière moi, je suis au premier rang. À gauche, voilà.
Premier rang à gauche. Est-ce qu'il y a des disciplines où l'âge est un avantage ? Peut-être en histoire-géographie, vous qui avez beaucoup voyagé ?
Oui, en histoire et en géographie, surtout étant donné les sujets qu'ils ont posés. Mais s'ils avaient posé un sujet sur la relation entre catholiques et protestants sous Louis XV, j'étais sec.
Alors que là, il y avait des sujets de géopolitique où votre expérience, disons, a pu vous apporter un plus.
Exactement, et au détriment des autres, parce qu'ils n'ont pas vécu ces périodes-là.
Et oui, puisque l'épreuve d'histoire géo tournait autour du Proche-Orient et en partie de l'ex-Yougoslavie. Lors de l'oral d'italien, vous avez carrément chanté.
Ben, j'ai chanté parce que je n'avais pas préparé ce qu'il fallait préparer. Je savais pas ce qu'il fallait préparer d'ailleurs, mais je me doutais qu'il fallait préparer quelque chose. Donc j'avais préparé une espèce d'ode à la chanson italienne, comme tout le monde peut le faire, hein, mais simplement l'examinatrice était sur un écran et elle se trouvait à Dijon, je pouvais pas lui faire lire le papier que j'avais écrit. Donc je lui ai dit je vais vous le lire et je l'ai lu et quand il y avait des titres de chansons, je les chantais.
Pourquoi vous le repassez ce bac ?
Ben, je le repasse parce que si vous voulez, dans le grand chemin de la vie, il y avait un nid de poule et ce nid de poule, c'était le bac que j'avais pas réussi, que j'avais traité très mal il y a quelques années, il y a plus de 50 ans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer, puis je vais voir.
Est-ce que c'est fatigant ? Est-ce que c'est difficile de retrouver un état d'esprit, au moins pour quelques jours, quelques semaines, scolaire, de se replonger dans les livres, de rester assis 4 heures à une table pour composer ?
Alors, c'est effectivement fatigant ce qui s'est passé hier, à la fin de l'épreuve. Je devais assister à une inauguration en ville où j'avais été invité. Et puis, j'ai téléphoné à l'un des organisateurs en lui disant, écoute, je suis vidé. Effectivement, c'est souvent quand on la veille des vacances qu'on se rend compte qu'on est fatigué. Bon, bah là, c'est un peu ça. Il y avait eu des journées très pleines, avec 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, avec une certaine tension quand même, aussi à cause du chrono, parce que très souvent, j'ai rendu ma copie dans les 10 dernières minutes. Donc, j'étais un peu tendu, un peu. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais fatigué et que je ne dormais pas assez, parce qu'il faut que je me lève assez tôt pour être à 8 heures à 40 minutes de chez moi.
Que faites-vous si vous avez le bac ? Que faites-vous si vous ne l'avez pas ?
Si je ne l'ai pas, je bois la santé de ceux qui l'ont eu. Et si je l'ai, au point de vue études, je me demande si je ne vais pas persévérer dans la théologie.
Poursuivre donc des études éventuellement en théologie. Merci beaucoup Michel Barda, on vous souhaite bon courage pour les épreuves qui restent. Et le résultat, c'est le 5 juillet, c'est bien ça ?
Le 5 juillet, mais tout le monde peut le voir en même temps.
Et un grand merci à nos confrères de France Bleu Auxerre qui nous ont permis de réaliser cette interview. En fin de matinée, à propos du bac, on a appris ce matin que plusieurs erreurs s'étaient glissées dans les sujets des épreuves de maths du baccalauréat. Ça ne concerne pas Michel Barda. Épreuve de bac des séries S et ES. Erreur mineure, c'est une information de notre confrère de France Info, Alexis Morel. Le sport à présent, il a une belle gueule, il a une histoire hors du commun, il a des médailles. Florent Manaudou a tous les attributs du grand sportif populaire. Le champion olympique 2012, vous vous en souvenez, avait mis sa carrière de nageur entre parenthèses pour s'essayer au handball. Il y a 2 mois et demi, il est retourné dans les bassins et il reprend déjà la compétition à Rome, au meeting des 7 collines. Les séries ce matin, Manaudou, 2e temps, retour plutôt convaincant à la compétition et lui, satisfait.
Je voulais juste être dans la bagarre, quoi. Et je me suis entraîné 10 semaines pour... Il faut être dans la bagarre l'année prochaine au jeu et j'y suis parce que je fais les mêmes temps que mes concurrents au Mare Nostrum. Donc je suis clairement à fond ce matin. Mais si je fais une course un peu meilleure sur les parties techniques, ouais je peux nager 21.5 je pense, mais J'avance vraiment pas sous l'eau, ça me dérange, j'arrive pas à transférer la force que j'ai gagnée, parce que j'ai vraiment beaucoup de force sur les jambes, mais j'arrive pas à la transférer sur le côté aquatique. Je suis pas assez souple. Voilà, faut que je nage, il n'y a que la natation qui va me faire redevenir aquatique sur le premier 15 mètres, etc. Mais c'est déjà bien que la nage soit à peu près calée et je suis content vraiment.
Florent Manoudou avec notre correspondante à Rome, Mathilde Imberti. Le programme sport du week-end, c'est aussi le Grand Prix de France de Formule 1, les essais libres aujourd'hui. Et puis le monde entier joue au foot. C'est à la fois la Copa América, la Coupe d'Afrique des Nations. Premier match ce soir à 22h. Le pays hôte, l'Égypte, affronte le Zimbabwe. Et puis, bien sûr, il y a la Coupe du Monde féminine. Et le grand rendez-vous du week-end ici en France, c'est France-Brésil, dimanche soir au Havre, en 8e de finale. Qu'en disent les supporters? Écoutez Yannick Vanet, supporter des Bleus, garçons et filles, section Dunkerque. Il était en Russie l'année dernière et il suit les filles, évidemment, tous les matchs depuis le début.
Cette Coupe du Monde féminine, pour le moment, c'est une belle fête. Donc je souhaite que ça continue et qu'on ait du beau jeu de l'équipe de France, parce que même si ce sont des filles, on est un peu encore sur notre fin, sur le premier tour. On a vu un très très beau premier match au Parc des Princes. Mais voilà, sur les deux matchs qui ont suivi, on n'a pas vu une équipe de France au taquet. J'espère en tout cas que l'équipe de France féminine fera comme les hommes. Elle démarrera sa Coupe du Monde officiellement en 8e de finale contre le Brésil. Donc je pense qu'on attend du jeu, du spectacle de cette équipe de France, parce qu'elle a une énorme qualité. Donc voilà, j'espère de voir un beau match et enfin lancer cette Coupe du Monde dans le jeu. On dira, tout est prêt, on a les drapeaux, on a les écharpes, les chapeaux pour les filles, et pour les hommes aussi. D'ailleurs, on a les chapeaux parce qu'il prévoit beaucoup de soleil au Havre ce week-end. Donc on est pareil, il n'y a plus qu'à pousser ces filles vers la victoire.
Un propos recueilli par Béatrice Duguay pour les pousser vers la victoire. Ce sera dimanche soir à 21h. En ce 21 juin, jour de fête de la musique, France Inter vous offre avec plaisir de la très bonne et de la très mauvaise musique. La très bonne, c'est ce soir à l'Olympia et sur l'antenne de France Inter, une soirée spéciale présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varro, L'Homme Pâle, Jeanne Haddad, Clara Luciani, Balthazar, Jungle. C'est à partir de 21h, cette affiche somptueuse, c'est jusqu'à 1h du matin au moins. Pour la mauvaise musique, franceinter.fr y a pensé. Vous savez, les affreuses reprises de tubes que nous allons entendre aujourd'hui dans les rues, sous nos fenêtres. Les pires ou allez, celles qui sonnent étrangement. Franceinter.fr vous a fait une petite compile. Et Sébastien Donna, pour le journal de 13h, on a fait un mix. Voici A Man's World, Smells Like Teen Spirit et Money, Money, Money. Sortez les bouchons d'oreilles. No, it wouldn't mean nothing without a woman. Without a woman or a girl.
Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello.
Savoir qui a commis ces petites horreurs. Allez donc sur franceinter.fr, l'article s'appelle « Ces reprises sont 100 fois pires que ce que vous entendrez ce soir sous vos fenêtres ». La vraie fête de la musique, c'est aussi hein, sur franceinter.fr et c'est à partir de 21h à la radio ou sur internet avec la soirée spéciale à l'Elysée, fête de la musique et action caritative. Elton John, qui sera décoré de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron, doit lancer une nouvelle mobilisation pour récolter davantage de fonds dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Avant la météo, ce constat, grosse secousse dans une partie de l'ouest de la France. Petite ou grosse secousse, ça dépend des régions. Un séisme magnitude 4,9 à Bressuire. Dans les Deux-Sèvres. Il a été ressenti dans un cercle allant de La Rochelle, du côté du Poitou aussi, à Angers et à Nantes. Écoutez Stéphane, écoutez Laurent, il habite à Carquefou, près de Nantes.
Bah, tout s'est mis à trembler dans la maison, les meubles, la vaisselle qui était sur la table. Et surprise, je me suis retourné savoir si c'était pas les enfants qui faisaient du bruit à l'étage. Mais enfin bon, ça ne faisait jamais autant de bruit. Et premier réflexe, sortir dehors, si c'était pas un camion, bah ça fait drôle quoi. Faut pas que ça dure trop longtemps parce que ça durait quoi, 10 secondes, même pas quoi. C'est comme on avait un vibreur de téléphone à puissance 1000 et tout se met à vibrer dans la maison quoi. On a l'impression que tout va se casser la gueule. Ça fait drôle et un petit peu d'angoisse.
À propos recueilli par nos confrères de France Bleu Loire-Océan.
La météo
avec les cafés Malongo, Grand Cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Jean-Michel Golinski.
Un temps calme cet après-midi du nord de la Loire au quart nord-est, du delta du Rhône à la Côte d'Azur et sur la Corse. En revanche, entre le sud-ouest, le massif central, le golfe du Lion et les Alpes, l'ambiance est orageuse avec pour l'après-midi et la soirée de forts orages sur la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et les Savoies placés en vigilance orange. Dans des températures maximales de 29 à 31 degrés sur le bassin méditerranéen, et de 21 à 25 en général sur les autres régions. Demain, les valeurs vont partout progresser, commencer à devenir chaudes à partir de dimanche, vers 30 degrés dans la moitié nord, 34 dans le sud-ouest, avec pas mal de soleil, mais encore parfois quelques averses résiduelles demain à l'est du Rhône.